Bonjour à ceux que je n'aurais pas salué ce matin. On va continuer notre rassemblement ce matin en lisant dans l'évangile de Luc. Donc si vous voulez préparer le texte, c'est l'évangile selon Luc au chapitre 13. L'évangile selon Luc, chapitre 13. Juste avant qu'on rentre dans la lecture de notre passage ce matin, donc ça Luc 13 à partir du verset 10 à 17, juste vous dire un petit mot sur Luc qui est en train d'écrire cet évangile. C'est un compagnon de Paul, donc qui a eu l'occasion de voyager avec lui pendant de nombreuses années. Il était à la fois autour du bassin méditerranéen et donc en Israël aussi. Il a eu l'occasion de rencontrer des tas et des tas de gens et de participer à l'expansion de l'évangile avec Paul autour de la Méditerranée. Et puis, mais ce n'était pas son métier de base. Son métier de base, c'est qu'il est médecin. Peut-être ce petit détail va vous intéresser tout à l'heure quand on va lire. Et il écrit cet évangile pour dire qu'il a fait des recherches, il a été voir toutes les personnes qui étaient concernées, tous les témoins oculaires qui restaient encore de l'époque de Jésus, mais quelques années après, peut-être 20, 30 ans après. Et il a été voir ces personnes qui sont encore là, il a pris leur témoignage et il est en train de nous écrire tout cela pour deux choses. La première, pour qu'on ait une entière certitude dans notre foi. Tout ce qu'on va lire aujourd'hui, tout ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, tout ce qui est dans les évangiles, c'est pas une invention. Pas une invention comme le Père Noël, vous savez, le petit personnage là qui va rejaillir ces prochaines semaines dans notre quotidien. Le Père Noël, franchement, c'est trop beau pour être vrai. Un gars avec une longue barbe blanche, avec un costume rouge, qui, avec un traîneau qui vole, dépose des cadeaux dans les cheminées, et puis pouf, ça tombe le soir du 24. Ça, c'est trop beau pour être vrai. Ça fait plaisir, c'est une histoire agréable, c'est sympa de décortiquer, d'ouvrir les paquets. Le 25, il n'y a pas de problème pour ça, mais c'est une histoire inventée. Trop beau pour être vrai. Mais pas pour ce qui concerne la bonne nouvelle qu'on va lire ce matin. La bonne nouvelle du salut de Jésus. C'est vrai. C'est historiquement vrai. C'est réel. Ça a vraiment eu lieu. Ce message est béton solide. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. La deuxième raison pour laquelle Luc écrit, c'est pour donner l'espoir. Parce que particulièrement dans son évangile, il montre comment Jésus s'est soucié des pauvres, de ceux qui avaient des besoins non comblés. Et en cette période de l'Avent, c'est bon pour nous de tourner le regard aussi vers cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour reprendre espoir. Jésus est venu. Il s'est incarné, le Fils de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable et nous libérer pour que nous le servions sans crainte. Je vous invite à prier. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Oui, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Merci notre Dieu d'avoir donné ton Fils pour détruire les œuvres du diable, pour détruire l'action du méchant, du chef de la rébellion qui nous maintenait sous sa coupe, pour nous offrir une libération, pour nous offrir un salut, pour nous offrir la réconciliation avec toi, notre Père, pour toujours, pour l'éternité. Merci que c'est un don gratuit que tu offres, qui nous libère dans nos cœurs, qui nous libère dans nos corps, qui nous donne le vrai repos et qui nous pousse à célébrer la gloire de ta grâce. Seigneur, que ce matin, tu fasses cette œuvre même encore dans nos cœurs, de nous délivrer de la puissance de l'ennemi. Je t'en prie pour le nom de Jésus. Amen. Il y a trois choses que je veux partager avec vous. Jésus est venu nous délivrer dans nos âmes. Jésus est venu nous délivrer dans nos corps. Et Jésus, alors, vainqueur du malin, nous offre le vrai repos et nous pousse à chanter. On va lire Luc 13, au verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait fait une guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit en ces termes, « Hypocrite, le jour du sabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait attachée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de toutes les merveilles qu'il faisait. Quelle belle histoire, n'est-ce pas ? Une histoire de Noël, une histoire de lumière qui jaillit dans un monde de ténèbres. Au moins, mettez-vous quelques instants à la place de cette femme, pendant 18 ans, courbée, incapable de se redresser. Et voilà que Dieu, le Fils, celui qui est la parole, qui était dès le commencement, qui est Dieu, Dieu le Fils incarné, quelle nouvelle extraordinaire! Qui aurait envisagé un tel scénario? Dieu se trouve là dans une synagogue en Israël, un certain sabbat. Dieu en personne vient dans le monde, revêt notre humanité, et il vient parce que sans lui, nous serions encore dans les ténèbres. Il vient mettre un point final à la révélation de Dieu. Il vient parce que on a désespérément besoin de l'entendre lui nous parler. Et on n'est pas différent de ceux qui étaient au premier siècle dans cette synagogue. Nous aussi, nous avons besoin que Dieu se fasse connaître à nos cœurs, à nos pensées. Car depuis la chute, il y a bien bien longtemps, vous vous souvenez, nous n'entendons plus. Nous sommes devenus sourds, en particulier à la voix de Dieu. Nous ne voyons plus. Nous sommes devenus aveugles. Notre cœur ne vibre plus naturellement à la voix de Dieu. Il fallait que Jésus vienne, qu'il parle et qu'il nous enseigne. Sans lui, nous n'entendons que notre propre voix. Des fois, elle dit des choses agréables, mais des fois pas. Des fois, elle nous engage dans une bonne direction, mais bien souvent, elle nous détourne du bon sens dans lequel on devrait aller. Sans Jésus, nous n'entendons que notre propre voix, ou alors celle de ce monde, c'est-à-dire dans la pensée biblique, ce système corrompu, loin de Dieu, dans lequel nous baignons. Sans Jésus, nous n'entendons que la voix du chef de ce monde, le diable, le leader de la contestation de Dieu et de son autorité. Paul l'a rappelé en introduction, la nuit qui arrive à 16h, 17h. Je ne sais pas pour vous, ce n'est pas franchement la période la plus agréable, je crois, pour la grande majorité d'entre nous. C'est bien différent de nos souvenirs de cet été, quand le soleil se couchait plutôt à 22h, 22h30, et on avait des longues journées pour faire plein de choses. Il faisait chaud, et c'était agréable. Les prophètes ont parlé dans la nuit. Dieu n'a pas laissé la nuit noire, comme ce sur le fameux parking de Saint-Gobain. Il y a eu des lumières qui sont venues. c'était une sorte d'hiver, si vous voulez. Elles étaient là, mais elles repartaient vite. Mais voilà que Jésus est venu avec lui. Une lumière entièrement suffisante, bien plus nette pour nous éclairer. C'est comme l'été, si vous voulez. Mais c'est encore pas fini. Bientôt, nous dit la Bible, il n'y aura plus de nuit, plus de ténèbres. C'est Apocalypse qui nous dit ça. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Il arrive un jour où il n'y aura plus aucune ténèbre. Et que ce soit jour ou nuit, Dieu sera là présent en train d'éclairer nos vies. Et c'est ce que Jésus a commencé à faire en venant lui-même en personne. C'est ce que Jésus est en train de faire dans cette synagogue quand il est en train d'enseigner cette foule. Dans Jean 6, nous lisons, c'est l'Esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis, c'est Jésus qui est en train de parler, sont esprit et vie. Et on se saisit de cette vie par la foi. C'est le moyen que Dieu nous a donné. Simplement de croire ce que Dieu dit. Mettre notre confiance dans ce que Dieu dit. Être convaincu de la réalité de ses promesses, même au-delà de ce qui est visible. C'est s'attacher à ce que Dieu dit comme étant plus concret, plus réel que ce qu'on peut percevoir. Et la foi vient de ce qu'on entend, n'est-ce pas ? Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Elle est esprit et vie. Et celui qui est la parole de Dieu éternel est là en chair et en os, dans cette synagogue. C'est pas une parole distante qui est venue par des bouquins, c'est pas une parole distante qui est venue par des sortes d'émotions vagues qui parcourraient le cœur des êtres humains. C'est une parole claire, une parole palpable, une parole qui accomplit ce qu'elle dit. Les présents dans la synagogue, est-ce que vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer, de ce qu'on vient de lire ? Dieu le Fils, Dieu lui-même est présent physiquement sur terre. Il n'est pas resté lointain. Il a probablement l'air de rien dans cette synagogue, au milieu de la centaine des participants rassemblés. Pourtant, c'est l'auteur de la vie, celui qui possède tout ce qui existe, qui soutient l'existence de tout et de tous. C'est lui qui est présent là. Peut-être que personne ne réalise encore dans cette synagogue que c'est Dieu qui est en train d'enseigner ce jour-là. Jusqu'à ce que il s'adresse à cette femme qui est elle aussi présente. Une femme, vous avez vu la description, courbée en deux depuis 18 ans, incapable. Il y a insistance qu'elle est courbée, mais c'est définitif dans un sens. Ça fait 18 ans qu'elle n'a pas vu le ciel. Elle est pliée en deux, mais de souffrance. Et Jésus voit cette femme. Il l'appelle, elle, personnellement. C'est pour cela que Jésus vient et qu'il révèle le Père. Il vient pour parler personnellement. Pour parler personnellement à cette femme courbée. Pour parler personnellement à toi qui es là ce matin. Cette femme, vous avez vu, elle est courbée, maintenue dans cette position par un mauvais esprit. Elle est comme ça depuis 18 années. Jeannot, je ne sais pas où il en est, il avait un lumbago ces derniers temps, le mari de Denise. Ça va mieux un peu ? Pas encore. Ça fait quelques jours, quelques semaines maintenant. Nathalie, vous savez, opérée de son dos depuis quelques semaines, quelques mois. C'est long. Vous pourrez en parler avec elle. Mais 18 années, courbée, incapable de se redresser. Voilà ce que cette femme est en train d'endurer, toutes ces années. Et Luc, le médecin, c'est intéressant, nous donne une raison qui peut surprendre. C'est parce qu'un mauvais esprit la tient captive comme cela depuis tout ce temps. Comment est-ce qu'on peut comprendre peut-être c'est que c'est un mauvais esprit puisse avoir un impact comme ça sur le corps d'un être humain? D'abord, il ne faut pas se leurrer parce qu'ils ont capacité d'agir sur des choses matérielles de ce monde. On le lit dans la Bible, je ne vais pas le démontrer ce matin. Mais aussi parce qu'il faut qu'on se rappelle qui nous sommes. C'est quoi être humain? Être humain, c'est être en partie matériel et en partie immatériel. Nous sommes faits d'une partie physique, un corps, et d'une partie non visible, une âme ou un esprit. Cette femme, peut-être, ne va pas bien physiquement parce que, intérieurement, elle ne va pas bien non plus. Trouble écaillé par cet esprit méchant qui la tient enchaînée depuis 18 années. Mais Jésus, Dieu, le Fils incarné, est là. Il est venu pour ça. Il est précisément dans cette synagogue ce jour-là, pour cette femme. Et il la libère en deux temps. La première chose qu'il fait, c'est qu'il l'appelle. Il la voit et il l'appelle. Il lui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Femme, tu es délivrée de ton infirmité. C'est fait. Il a suffi que Dieu, le Fils, Jésus, prononce cette parole. Tu es libérée. Et elle est libérée. Le mauvais esprit n'a plus de place dans sa vie, ne peut plus la tenir enchaînée. Si Jésus te déclare libre, tu es libre parce qu'il a vraiment le pouvoir de détruire les œuvres du diable. C'est pour cela qu'il est venu. Par sa vie, par sa mort sur la croix, par sa résurrection, il a acquis ce droit-là, ce pouvoir qu'il avait de toute éternité, mais il l'a manifesté. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable qui nous enchaînent intérieurement dans notre corps, dans notre âme. Jésus nous délivre dans notre intériorité. Mais pas simplement. Dans un deuxième temps, Jésus nous délivre aussi dans notre corps. Parce que être humain, ça veut dire à la fois avoir une âme et aussi un corps. Et on a besoin de délivrance dans ces deux aspects de notre réalité. Rappelez-vous, Jésus est ressuscité dans un corps physique. L'espérance chrétienne, c'est pour nous aussi de ressusciter un jour dans un corps physique pour, pendant toute l'éternité, dans un corps physique régénéré, servir Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Alors Jésus s'approche aussi de cette femme et il la touche avec ses mains, il lui impose les mains. Je pense que c'est un geste d'affection. Je ne sais pas si c'est votre cas. On a toujours une hésitation. En tout cas, on peut constater ça globalement, disons généralement. Quand quelqu'un physiquement n'est pas tout à fait pareil qu'un autre, qu'une sorte de norme, on est toujours un peu intimidé. Est-ce qu'on peut s'approcher? Est-ce qu'on peut toucher? Non. Mais Jésus n'a pas honte d'arriver près de sa femme, de la toucher, la saisir comme un geste d'affection et comme un geste d'identification. Imaginez encore ce que cette femme a vécu depuis 18 ans. C'est une moquerie quand elle se promenait dans la rue en trébuchant parce que avec son dos courbé, c'est difficile de lever les pieds et les routes ne sont pas égales. Elle a peut-être fait sourire ou rire plus d'un passant qu'il a vu sur le chemin. Peut-être que quand elle était en famille, peut-être quand elle était invitée chez des amis, il y avait toujours une gêne. Parce qu'il fallait toujours penser, ah oui, non mais tu peux pas t'asseoir là, ok, attends, on va réfléchir à quelque chose. Ou, ah tu peux pas manger à table comme nous, attends, on va essayer d'arranger quelque chose. Imaginez les complications juste du quotidien pour cette femme. La première année où ça lui arrive, quoi lui dire? La deuxième année où ça lui est arrivé, quoi lui dire? La dixième année où, jour après jour, elle est courbée, quoi lui dire? 18 ans. Est-ce que quelqu'un pouvait lui parler dans sa situation? On ne peut même pas la regarder dans les yeux? Elle est courbée en deux. Combien de fois sa parole n'a pas été entendue? Parce que sa voix portait vers le sol et non pas vers ceux qui étaient autour d'elle. Combien de fois elle a pu voir le ciel bleu, courbé en deux qu'elle était? Même pour dormir, elle devait être toujours de côté. Son regard attaché à la poussière de la terre. Son regard attaché à la vanité de notre vie. Là où nous sommes venus, là où nous retournons. Comment faire un câlin avec son mari? Comment faire un câlin avec ses enfants quand on est plié en deux, courbé, incapable de se redresser depuis 18 ans? Je ne sais pas comment vous la voyez. Première fois que j'ai commencé à méditer ce texte, je me suis dit, elle doit être âgée. Et je me suis dit, mais t'es bête, c'est pas marqué. Peut-être qu'elle est âgée, peut-être qu'elle a la cinquantaine, et ça fait 18 ans qu'elle est courbée, peut-être qu'elle a la trentaine, et ça fait 18 ans qu'elle est courbée en deux. Et voilà que Dieu, le Fils, dans la personne de Jésus, s'approche d'elle, la touche, lui impose les mains. Il s'identifie à sa souffrance, à son malheur. Une forme d'échange aussi se passe, parce que à peine l'a-t-il touché que voilà qu'elle se redresse. Après 18 années, elle peut relever la tête, elle peut regarder au ciel, elle peut regarder les gens autour d'elle, débarrassée de son corps qui ne fonctionnait plus. Parce que Jésus est le Messie. Parce qu'il est venu détruire les œuvres du diable qui sont aussi dans notre corps physique. Il a possibilité de libérer cette femme. Ce n'est pas donné à tous. Toute petite parenthèse. Méfiez-vous des guérisseurs. Méfiez-vous des magnétiseurs et autres personnes qui prétendent pouvoir faire cela. Il y a une personne qui est véritablement capable de faire ça, qui a été envoyé pour cela. Il est le seul à pouvoir prendre sur lui le mal qui nous atteint. Parce qu'il est le Messie, le roi choisi par Dieu. Et cette personne, c'est Jésus seul. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 8, verset 16, nous lisons ceci. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Ésaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses, il s'est chargé de nos maladies. C'est une citation d'Ésaïe 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Lui seul pouvait le faire. Et la chose extraordinaire, c'est qu'il est là, dans cette synagogue, au premier siècle. Il est venu pour ça. Après avoir libéré l'âme de cette femme, de cette emprise démoniaque, cette emprise méchante, destructrice, Jésus est en train de guérir aussi son corps. C'est intéressant de constater que personne n'a contesté le miracle de cette guérison physique. Luc, le médecin, constate qu'il y a une guérison. Le chef de la synagogue dit, pas que c'est une tromperie, il dit, il y a eu guérison, mais venez juste pas le samedi pour faire vos guérisons. Venez les autres jours de la semaine. Bien sûr, elle se trompe. La foule ne s'est pas trompée aussi. Il y a bien eu une guérison. Cette guérison, elle est le signe de la guérison intérieure qui a eu lieu dans le cœur de cette femme. Elle est le signe de la puissance de Jésus pour nous délivrer de toute chaîne, même celle qui enserre notre corps, qui pourtant est amenée à mourir un jour. Et Dieu promet la résurrection. Alors Jésus est venu détruire les œuvres du diable, autant dans le domaine spirituel que dans le domaine physique. Alors ce Noël, on est invité à réfléchir à ça. Parce que Noël, c'est le début du sabbat promis par Dieu, le début du repos promis par Dieu. Et c'est une occasion pour nous de chanter la gloire de la grâce de Dieu. Dieu le Fils incarné, présent sur terre, au milieu de son peuple, C'est le début des réalisations de la promesse à Abraham. Vous rappelez ce que Dieu avait promis à Abraham, un lieu pour être en paix, en sécurité, pour servir Dieu, pour être dans la présence de Dieu. Une relation spéciale avec lui. Et ça, c'est pas juste pour une ou deux personnes crier sur le volet, mais pour un peuple nombreux. C'est les trois volets, la promesse à Abraham. C'est l'évangile annoncé d'avance à Abraham, qui maintenant s'accomplit. Parce que Jésus s'est incarné, il est venu, le roi. Et cela trouvera son plein accomplissement dans l'éternité, après la deuxième venue de Jésus-Christ, pour le grand jour du jugement. Et voyez cette femme, comment elle est décrite par Jésus. Elle est fille d'Abraham. Elle est aussi bénéficiaire des promesses. Je ne pense pas qu'il s'agit juste ici qu'elle est juive, qu'elle est hébreu, qu'elle est juste une descendante physique. Quand Jésus utilise ce vocabulaire, c'est pour dire que cette femme a la foi. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle a eu la foi parce qu'elle venait d'entendre Jésus annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que sa conversion vient d'avoir lieu, si vous voulez? Peut-être. Dans d'autres rencontres de Jésus avec des malades dans les évangiles, on voit que Jésus fait ressortir la foi à ce moment-là de la personne, cette foi nouvelle. Par exemple, je pense à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, une autre partie de l'évangile. Mais il me semble ici que le texte nous dit plutôt qu'elle avait déjà la foi. Cette femme était déjà une fille d'Abraham. Elle avait mis son assurance dans les promesses de Dieu. Et Dieu est en train de prendre soin d'une membre de son peuple qui pourtant, malgré cela, reste enchaînée dans une partie de sa vie certainement à cause d'une œuvre mauvaise, d'un esprit mauvais. Je ne crois pas que c'est un récit de conversion que nous avons lu ce matin, mais un récit de libération d'une femme qui appartenait déjà à Dieu, qui avait déjà foi en sa promesse, mais qui avait souffert pendant 18 ans, malgré tout. Si tu as la foi, ou si tu ne l'as pas encore, de toute façon, c'est le même message que tu as besoin d'entendre ce matin. C'est le même Jésus qui vient pour libérer, pour délivrer. Et si il est venu pour les hommes, les femmes du premier siècle, son œuvre ne s'arrête pas, n'est-ce pas, à cette époque-là. Alors la question qui nous est posée, à nous qui sommes ici, présents, pas dans une synagogue, mais à Carillon, nous qui sommes avec Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus n'est plus là, mais il continue d'agir pour nous depuis son trône à la droite de Dieu, par son esprit qu'il nous a donné. La question qui nous est posée ce matin, c'est quel fardeau nous pèse depuis trop longtemps? Quel fardeau te pèse depuis trop longtemps? Voudrais-tu en être débarrassé? Noël, c'est le rappel que Jésus est venu pour offrir cette libération. L'hypocrisie du chef de la synagogue met en relief, en contraste, si vous voulez, la compassion de Dieu. Si les humains sont capables de prendre soin de leurs affaires le jour du sabbat, de prendre soin de leurs animaux, qui, juste pour un jour, ont besoin de boire, pour être détachés de leur mangeoire, de leur étable, pour les conduire à un point d'eau, à combien plus forte raison Dieu aime son peuple, Dieu aime cette femme enchaînée depuis 18 ans. Si nous sommes capables, nous aussi, de prendre soin de nos affaires, même quand c'est jour de congé, à combien plus forte raison, il est normal pour un Dieu de grâce d'accorder la délivrance à une de ses filles qui était tenue enchaînée depuis 18 ans. À combien plus forte raison, il est normal pour un Dieu de grâce d'accorder sa délivrance à toi ce matin qui est enchaîné, qui ressent cette chaîne. Peut-être qu'il y a une question en suspens pour nous. Pourquoi avoir attendu 18 ans? C'est une question. Franchement, je n'ai pas la réponse. en tout cas pas une réponse très développée. Mais juste, je voulais te dire ce matin, parce que c'est ce que la Bible affirme aussi. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, mets ta foi en Jésus. Aujourd'hui, c'est encore un jour de grâce. Si tu entends Dieu qui t'appelle, alors viens, parce qu'il veut libérer et ton âme et ton corps. Imaginez le ministère de cette femme, bien qu'elle soit partie depuis longtemps, bien qu'elle ait subi 18 ans de souffrance. N'est-ce pas incroyable qu'aujourd'hui, elle témoigne encore à nous, ici à Carême. Je ne sais pas pourquoi Jésus a attendu 18 ans, ou Dieu a attendu 18 ans pour cette femme. Mais je sais que ce qu'il a fait nous parle encore aujourd'hui. Et en comparaison de ces 18 ans, toutes ces années pendant lesquelles des millions de chrétiens ont été encouragés par cette femme, me donne espoir. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. Les 18 ans de souffrance de cette femme sont une bénédiction pour nous. Elle nous rappelle que peu importe depuis combien de temps tu luttes, Jésus reste toujours capable de te délivrer. Il n'a pas dit son dernier mot. Noël nous rappelle que Dieu est venu instaurer un temps de paix et de repos. L'Avent, c'est un temps pour réfléchir à ce qui me tient enchaîné. C'est un temps pour s'attendre ensemble et demander à Jésus de venir nous libérer. De nouveau, la question est, qu'est-ce qui te tient enchaîné? Est-ce peut-être une parole que tu as entendue il y a bien longtemps qui disait « Tu es nul, tu n'es pas capable. » Est-ce que c'est un événement, une attaque physique peut-être d'un proche ou d'un inconnu, une blessure non guérie dans ta vie? Qu'est-ce qui te tient lié? Est-ce que c'est la peur du regard des autres, de ce qu'on va penser de toi, de devoir absolument paraître super, le premier? Est-ce que c'est la peur du jugement de Dieu, de ne pas avoir compris la grâce, te pousse encore à chercher à plaire à Dieu par tes propres forces? C'est une chaîne qui peut demeurer puissante, même quand on a commencé à vivre par la foi. Quel mensonge est-ce que j'ai du mal à rejeter dans ma vie? Quel mensonge est-ce que tu as du mal à rejeter dans ta vie? Est-ce qu'il y a une petite voix qui vient toujours te redire des choses mauvaises, désagréables, qui t'enchaînent? Dans l'évangile, selon Matthieu, nous voyons Jésus dire ceci. Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut, ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant car ce que tu as voulu, car c'est ce que tu as voulu, pardon. Mon Père m'a tout donné, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, dit Jésus, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Cette femme a entendu Jésus l'appeler. Elle a entendu Jésus lui dire une parole de délivrance. Elle a été délivrée. Et maintenant, elle s'est redressée. Et elle chante. Elle a commencé à goûter un peu plus le repos promis par Dieu. C'est vrai pour nous aussi. Si nous écoutons Jésus nous parler, si nous écoutons son appel, viens, je te donnerai le repos. Alors nous goûterons aussi un peu plus le repos et la joie. Il y a un grand renversement de situation au moment où Noël arrive. Il y a plein de chants aussi qui montent au moment de Noël. C'est Marie qui dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici désormais toutes les générations me diront heureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a agi avec la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés, il a renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, il s'est souvenu de sa bonté, comme il l'avait dit à nos ancêtres, en faveur d'Abraham et de sa descendance pour toujours. Zacharie loue Dieu aussi, il bénit Dieu, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il a pourvu un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte. Ce passage, cette délivrance de cette femme, nous rappelle que Noël a eu un impact incroyable, que Dieu vient, utilise toute sa puissance pour nous libérer. Pour conclure avec ces quelques paroles, alors, pendant ce temps de l'Avent, ces quelques semaines qui viennent avant Noël, pourquoi pas nous rassembler autour du feu. C'est une illustration du pasteur John Piper que j'ai lu cette semaine dans une méditation quotidienne, qui m'a parlé et que je voulais mettre ici. Dieu dit « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» Et on a tous cette image de la famille rassemblée autour du feu, de l'hiver, du foyer, de la cheminée pour se réchauffer. Peut-être que vous n'avez pas de cheminée chez vous, mais au moins vous imaginez quel bien ça peut faire quand il fait froid dehors d'être tous ensemble autour du feu, éclairés, réchauffés par cette lumière et cette chaleur. Nous aussi, dans cette période de l'Avent, c'est un appel à nous rassembler autour du feu de la parole de Dieu. De prendre du temps pour écouter de nouveau cette bonne nouvelle, nous toucher jusqu'au plus profond de notre cœur, de notre âme. De demander à Dieu quel est cet effet puissant pour délivrer, arracher les chaînes qui nous retiennent encore pour servir notre maître et notre roi. Avant, l'avant, c'est une période d'espoir. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas encore intervenu dans ta vie? Ce passage nous dit, garde courage et espoir. Dis à Dieu ta souffrance. Écoute-le, t'appelle. Place-toi devant lui avec ce qui te retient de le servir. Et rappelle-toi, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Pense à cette nouvelle incroyable du premier Noël et comment aujourd'hui, à cause de l'incarnation, parce qu'il a pris sur lui nos souffrances et nos maladies, il y a un réel espoir en ce délire. Il y a d'espoir en aucun autre que Jésus. Garde espoir et attends sa délivrance. Et goûte le repos de ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. Chante ta joie. Annonce les grandes œuvres de ce que Dieu a déjà accompli. Peut-être dans cet avant, de nouvelles choses vont s'accomplir dans ta vie. Tu auras de nouvelles raisons de chanter et d'annoncer les grandes choses que Dieu a accomplies pour toi. Le 16 décembre prochain, quand on va rassembler nos amis, faisons-leur connaître cette grande nouvelle. Quand on est sur la route, peut-être dans les bouchons avec les gilets jaunes, que nos pensées sont plutôt négatives. Chantons, rappelons-nous la bonne nouvelle que Jésus s'est incarné pour détruire les œuvres du diable. Quand on est en famille, en train de décorer peut-être dans les prochaines semaines avec des guirlandes, des bougies, je ne sais pas quoi, dans la maison, annonçons et redisons à nos cœurs et à nos enfants. Voilà pourquoi nous décorons la maison. Parce que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que nous tous ici, fils et filles d'Abraham, on se réjouisse pendant cette période de la vie. Seigneur, tu vois de la même manière que tu as vu cette femme dans la synagogue, tu vois ce qui est visible et tu vois ce qui est invisible. Tu vois ce qui se passe dans les cœurs des uns des autres. Et puisque tu es venu pour détruire les œuvres du diable, nous te demandons simplement, Seigneur, avec toi, ôte les chaînes qui retiennent encore les uns les autres pour que chacun nous puissions goûter le repos que tu es venu nous offrir à Noël. Que les uns les autres, on puisse chanter un chant nouveau, raconter de nouvelles choses que tu as accomplies dans notre vie, dans notre cœur, dans notre âme aussi bien que dans notre corps. Seigneur, merci parce que tu es venu détruire les œuvres du diable et nous sauver. Amen.